Radio Kapi. Oh, Kapi.
Les informations avec Belinda Boussouma.
Une. Ces violents combats depuis tôt ce matin sur toutes les lignes de front entre l'armée et le M23 dans le Rutshuru au nord Kivu. Le trafic est suspendu entre Goma et Rutshuru. Toutefois, les FARDC maintiennent le contrôle de Rubare jusqu'à Rutshuru centre pour empêcher l'avancée des rebelles. 10 chefs d'établissement scolaire de la province éducationnelle Sud Kivu 1 suspendus en une semaine. C'est le résultat des enquêtes effectuées pour identifier et sanctionner les auteurs des antivaleurs. Le directeur de cette province éducationnelle invite les gestionnaires d'école à exécuter les instructions des autorités des tutelles. Et puis, l'invité de ce midi, Jean-Paul Kapitula, coordonnateur du projet des associations villageoises d'épargne et de crédit dans le Grand Nord Kivu et l'Ituri. Pour lui, ce projet permettra d'améliorer la vie quotidienne et la situation économique des vulnérables et gagne petit dans la région. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Le trafic est suspendu depuis ce vendredi matin sur la nationale numéro 2 entre Goma et Rutshuru. C'est à la suite des affrontements violents qui se poursuivent sur toutes les lignes de front en territoire de Rutshuru. Plusieurs sources locales indiquent qu'une barrière serait déjà érigée par les rebelles du M23 à Kako, empêchant ainsi le passage des véhicules sur cet axe. Cependant, les FARDC maintiennent le contrôle de Rubare jusqu'à Rutshuru centre pour empêcher toute avancée des rebelles du M23. Plus de détails avec Innocent Fadili.
Les affrontements se poursuivent depuis très tôt ce vendredi matin dans la région, affirment des sources coutumières et de la société civile. Ces sources indiquent que les rebelles du M23 seraient à Kalenger, à Kako et Biruma et auraient même érigé une barrière sur la nationale numéro 2. Seuls quelques motocyclistes courageux arrivent à traverser la zone. Du côté de Busanza, les M23 occuperaient déjà Kitagoma et Karambi et obligeraient la population de rentrer dans leurs maisons d'après nos sources. Des combats se poursuivent également sur l'axe Tamugenga et Biruma, où d'intenses combats sont en cours à Kabaya et Kazuba notamment dans le groupement des Gisigari. Toujours sur cet axe routier, plus au sud, les M23 occuperaient depuis ce matin Rugari centre jusqu'à Mwaro, alors que les FARDC sont à Kibumba. Une accalmie s'observe encore à Rutshuru centre et Kiwanja, bien que certains habitants préfèrent déplacer leurs familles vers les axes plus ou moins sécurisés.
Au sud Kivu voisin, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, très préoccupée par les attaques contre le système de santé en temps de conflit, des attaques physiques ou verbales dirigées contre les infrastructures et ou le personnel de santé, ce qui provoque la destruction des infrastructures de santé et aboutit même au renvoi des animateurs de ces structures. Cette question fait l'objet d'un atelier de deux jours à l'hôtel Bégonias de Bukavu. À cet effet, une délégation de l'OMS venue de Genève, en Suisse, forme les différents acteurs de santé du Sud Kivu et leurs partenaires. Docteur Traoré Alou explique au micro de Emmanuel Elamenji.
Tout le but de cette formation, c'est de pouvoir capaciter les partenaires à identifier d'abord c'est quoi les attaques et à pouvoir documenter les attaques via la plateforme en ligne que l'OMS a déjà. Et donc c'est une notification, un signalement anonyme. Donc quand les partenaires sont imprégnés déjà sur tout l'écosystème autour des attaques, pourront mieux documenter. Et pourquoi un moniteur? C'est pour avoir des données des probantes, c'est pour avoir des évidences et montrer aux yeux du monde, voici si tel pays subit les attaques, les structures de santé ou le système de santé en général est attaqué. Donc en gros, c'est pour nourrir le plaidoyer avec des données probantes, avec des données chiffrées, pour nourrir le plaidoyer pour pouvoir prévenir ces attaques. Donc nous comptons avoir l'adhésion de tous nos partenaires ici au Sud Kivu pour remonter efficacement ces données sur les attaques et aussi au niveau local, les partenaires individuellement ou de façon collective avec le soutien du cluster peuvent exploiter à leur niveau les données sur les attaques pour nourrir le plaidoyer et renforcer l'accès humanitaire.
Province Lualaba, le cadre de concertation de la société civile de Fungurume exhorte la justice militaire d'infliger les sanctions qu'il faut aux deux éléments de la garde républicaine, auteurs du meurtre des deux jeunes, membres de l'UNAFEC. Incident survenu dimanche et lundi dernier à Fungurume. Dans un communiqué de presse publié jeudi, cette structure citoyenne demande aussi aux partis politiques de bien encadrer leur jeunesse dans le cadre du respect de l'ordre public. Écoutez à ce sujet, Gauthier Kafouamba, président du cadre de concertation de la société civile de Fungurume, il a été joint par Jean Gandou.
Nous avons dressé adresser ce communiqué plutôt aux échauffourées du 23 et 24 octobre qui ont fait 2 morts, tous de la Junafec, Fungurume, par la garde républicaine. Et suite à ça, nous avons reformulé nos recommandations. En premier lieu, que l'auditorat militaire punisse sévèrement les 2 militaires ayant tiré sur les 2 jeunes. L'audience en foraine qui a commencé, qui a été renvoyée au 7 novembre, jusqu'à là ne reconnaît que celui qui a tué le dimanche. Alors que celui qui a tué le lundi 24 octobre n'est pas encore reconnu du public. Il doit répondre de son acte ignoble. Il y a eu pillage, les shops de téléphones ont été vidés, les gens sont en train de pleurer ici. L'enquête doit être ouverte pour dénicher ces voleurs. Le gouvernement provincial et l'autorité locale, donc le bourgmestre, de pouvoir indemniser, ne fût-ce qu'avec quelque chose, ces opérateurs économiques qui ont perdu leurs marchandises. Au parti l'UNAFEC, de pouvoir moraliser, conscientiser les jeunes, le parti politique de l'Union Sacrée, ça doit montrer la paix, ça doit montrer les actions de pouvoir aider le chef de l'État en lieu et place de troubler l'ordre public.
Pour rappel, le dimanche dernier, au cours d'une dispute entre les membres de la Junafec et un élément de la garde républicaine, ce dernier a tiré à bout portant sur l'un des jeunes qui est mort sur place. Le lendemain, un deuxième a été fauché au cours d'une manifestation organisée par des jeunes de Fungurume pour dénoncer le meurtre de leurs collègues la veille. Retournons au Sud-Kivu. 10 chefs d'établissements scolaires de la province éducationnelle Sud-Kivu 1 sont suspendus en l'espace d'une semaine. C'est à l'issue du rapport d'enquête effectué pour identifier et sanctionner les auteurs des antivaleurs. Le directeur de la province éducationnelle Sud-Kivu 1 explique que c'est après 2 ans de sensibilisation que l'EPST passe à la vitesse supérieure. Il appelle ainsi les gestionnaires d'école à mettre en exécution et respecter les instructions et normes mises en place par les autorités des tutelles. Le provède Simon Zono le dit au micro de Rachel Kiesé.
Un gestionnaire, un chef d'établissement qui perçoit des frais autres que ceux qui se retrouvent dans des textes réglementaires ou juridiques peut être puni par la loi, peut être interpellé par le parquet. Il peut faire la prison pour ça, que les gens le sachent. Mais aussi, je voudrais, à travers votre micro, demander aux gens de rectifier les tirs. Si nous aimons notre province, si nous aimons notre pays, si nous aimons les enfants que les parents nous confient, mais nous devons mettre en exécution les normes et les instructions que l'État nous envoie. Nous devons alléger la charge financière des parents pour que les enfants viennent nombreux à l'école, pour que nous les formions afin de mettre à la disposition du pays et de la province un capital humain, compétent, compétitif, qui va prendre en charge le développement de ce pays.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'ancien directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo, est placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis hier à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa. Il y a rejoint 5 autres membres de l'ancien comité de gestion de la SNEL, dont le directeur financier, celui de transport en charge de la facturation, le directeur des marchés, le chef de la cellule de passation des marchés au cabinet du directeur général et le responsable de la task force. Ils sont poursuivis par le parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour détournement présumé des fonds commis à cette entreprise et pour violation de procédures dans la passation des marchés de gré à gré. Autre nouvelle, l'Assemblée nationale entame ce vendredi le débat général sur le projet du budget 2023. Le Premier ministre et tout son gouvernement sont ainsi attendus cet après-midi devant la représentation nationale pour présenter l'économie du budget. Notez qu'à la veille de la présentation de la loi des finances exercice 2023, le président de la Cour constitutionnelle a rencontré Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, afin de plaider pour un meilleur traitement des magistrats dans le budget 2023 pour Dieudonné Kamouleté. Président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, la prise en compte des conditions sociales des magistrats est le seul moyen d'avoir une meilleure justice en RDC. Dieudonné Kamouleté est au micro de Michel Kifindangoy.
En principe, ce sont des choses auxquelles nous devons nous habituer. J'avais dit autrefois, j'étais déjà ici au Parlement, mais j'avais rencontré le président du Sénat. J'avais dit que c'était dans le cadre normal d'échanges entre institutions. Pourquoi aujourd'hui ici, vous savez très bien que c'est l'autorité budgétaire. Et demain, vous allez ici recevoir le Premier ministre avec le projet de budget pour l'année 2023. Quoi de plus normal que le président du Conseil supérieur de magistrature puisse passer pour rappeler ce qui a été dit avant, sur l'attention particulière qui doit être accordée au secteur de la justice. Parce que si réellement nous voulons que notre justice puisse aussi être bien ancrée, il faudrait que la condition ou les conditions sociales des magistrats soient prises en compte. Il n'y a pas de gibier, la justice fait son travail selon que la Constitution et les lois de la République lui ont assigné ces devoirs-là.
Rendons-nous dans la province du Maniema pour parler de la manifestation de la population ce vendredi matin réclamant la tenue de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de cette province dont le processus a été récemment suspendu par le Conseil d'État. Les manifestants ont déposé leur mémorandum au bureau de l'Assemblée provinciale tout en appelant à l'implication personnelle du chef de l'État pour décompter la situation. Florence Kiza, reportage.
Regroupés au sein de la Ligue des Patriotes pour la promotion de la bonne gouvernance, dans leur mémorandum, ces centaines de personnes disent non à la gestion de la province par un gouverneur intérimaire. Mukwamba Bantumponga Justin, coordonnateur adjoint de la LIPAGBO.
Les référés suspension étant une mesure provisoire, la population du Maniema sollicite l'implication personnelle du président de la République pour une issue apaisée et heureuse de ses feuilletons. Par ailleurs, elle vous recommande de tout mettre en œuvre pour obtenir de la CENI et du Conseil d'État la levée de la dite mesure dans les délais légaux en vue de achever les processus d'élection du gouverneur et des vice-gouverneurs.
Devant ces manifestants qui brandissaient plusieurs calicots, la présidente de l'Assemblée provinciale leur a promis de transmettre leur mémorandum à qui de droit.
Quand les élections sont programmées, nous faisons notre devoir, élire les gouverneurs et les vice-gouverneurs du Maniema pour que le Maniema puisse être dirigé comme toutes les autres provinces par un gouverneur élu sur lequel les députés ont le droit d'assurer un contrôle de tout ce que l'exécutif fait.
Notons que le processus de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Maniema qui devrait avoir lieu le mardi dernier a été suspendu par une décision du Conseil d'État. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction le Kasaï oriental. Le chef de l'État a clôturé hier à Mbujimayi le réseau d'affaires Makutano. Dans son mot, Félix-Antoine Tshisekedi a souhaité que Makutano s'inscrive dans la pérennité. Certains participants estiment que cette rencontre d'affaires peut relancer le développement économique dans les provinces du Grand Kasaï. D'autres, par contre, restent pessimistes. Les uns et les autres ont été joints au téléphone par Esther Ndalafina.
Il s'est trouvé là-bas les gouverneurs des quatre provinces de la région du Grand Kasaï. Les gouverneurs ont pratiquement présenté les opportunités qu'il y a d'investissement et cela était très intéressant parce que avec la présence des investisseurs, nous avons espoir. Donc il y a intérêt que les provinces de l'espace Kasaï bénéficient des investissements dans différents domaines.
Ça fait 21 ans que je vis à Mbujimayi. Des discours comme ça, on les a entendus 1 million de fois. Dernièrement ici, c'était avec les Kenyans qui sont arrivés. On nous a impressionnés comme ça et puis ils sont partis sans suite. Equity Bank est arrivé ici, blablabla, il n'y a rien. Et ils sont venus, mais moi, je n'ai rien entendu de leur part qui puisse me garantir.
Mais il y a une question que moi, je me suis posée personnellement. Est-ce que il y a une commission restreinte, stratégique, qui a la charge de faire le suivi et tout ça? Il y a eu une première édition, une deuxième, une troisième. Aujourd'hui, nous sommes à la 8e édition. Qu'est-ce que ça a déjà apporté concrètement?
Actualité internationale. Nous sommes d'abord en Ouganda. La ministre ougandaise de la Santé a inauguré une nouvelle unité de traitement d'Ebola dans la ville de Mubende, l'épicentre de l'épidémie, alors que le nombre des cas confirmés continue d'augmenter. Selon les chiffres publiés la semaine dernière par l'Organisation mondiale de la Santé, le nombre des décès dus à l'épidémie d'Ebola déclarée fin septembre dans le pays s'élève désormais à 44. Le ministère ougandais de la Santé indique quant à lui qu'il y a eu 90 cas confirmés au total et 28 décès. En Afrique du Sud, la justice a abandonné les charges contre un groupe des mineurs artisanaux accusés de viol. Selon les résultats des tests ADN effectués par l'autorité chargée des poursuites, ceux-ci n'ont pas permis de relier ces personnes aux actes commis sur les victimes. L'affaire a éclaté en juillet dernier lorsque 8 femmes près de Johannesburg avaient été attaquées par un groupe d'hommes pendant le tournage d'un clip vidéo près d'une mine désaffectée. Les suspects avaient été arrêtés et inculpés suite à l'identification de certaines victimes. Les enquêtes se poursuivent. Assure la police quant aux coupables du viol présumé sur ces femmes. Cependant, plusieurs craignent qu'elles n'aboutissent pas et que les responsables ne soient jamais inculpés.
L'invité.
Il s'agit de Jean-Paul Kapitula, coordonnateur du projet des associations villageoises d'épargne et de crédit dans le Grand Nord Kivu et l'Ituri. Il nous parle de la mise en place de ce projet dans la ville de Beni et ses environs. Il pense que ce projet permettra d'améliorer la vie quotidienne et la situation économique des vulnérables et gagne petit dans la région. Jean-Paul Kapitula s'entretient avec André Kitenge.
Jean-Paul Kapitula, bonjour.
Bonjour Radio Kapi.
Parlez-nous un peu de ces associations villageoises d'épargne et de crédit. Comment elles fonctionnent?
Comme vous l'avez dit, nous allons devoir remercier le coordonnateur national, Monsieur Kasere Kamupika Christian, qui est le coordonnateur national, pour ces riches informations auxquelles nous a fait associer ça fait longtemps. En fait, le ZAVEC, c'est une initiative, une approche nouvelle permettant à ce que le petit gagnant et les personnes vulnérables puissent s'associer ensemble et hebdomadairement se rencontrer, mettre en place un système de cotisation hebdomadaire. Et dans ça, ils essayent d'avoir le temps de réfléchir comment ils peuvent faire améliorer leur vie quotidienne et surtout la situation socio-économique par là vous entendez. Et quand on parle de la situation socio-économique, cela impacte même sur la situation socio-développementale parce que on ne peut pas avoir de développement si au niveau économique, il n'y a rien qui est réservé. Ces différentes associations, une fois formées, ils ont un temps limite dans lequel ils exercent leur activité et à la fin des comptes, ils revoient les bénéfices qu'ils ont réalisés dans l'ensemble de leurs activités. Au bout de ce qu'ils font, plusieurs associations villageoises constituent ce qu'on appelle le réseau des associations villageoises des crédits et d'épargne et plusieurs réseaux se réunissent autour de la coordination territoriale des associations villageoises d'épargne et de crédit. Et plusieurs coordinations territoriales composent ce que nous appelons la COPAVEC ou coordination provinciale des associations villageoises d'épargne et de crédit. Et ce sont ces associations villageoises d'épargne et de crédit au niveau provincial de toutes les provinces qui sont déjà membres qui constituent ce que nous appelons au niveau national la coordination nationale des associations villageoises d'épargne et de crédit. Et en un mot, c'est vraiment une approche qui rassemble les personnes pour qu'ils essayent de travailler sur les relèvements de la situation socio-économique. Non seulement ça, mais aussi, il y a aussi des problèmes de la communauté, comme la santé, comme les questions humanitaires, comme aussi des questions de développement qui affluent, qui infectent même ces populations.
Alors, il y a déjà la mise en place de ces associations villageoises d'épargne et de crédit, ici notamment à Beni. C'est quoi l'objectif?
L'objectif poursuivi, c'est d'abord autonomiser la femme. Vous savez, aujourd'hui, c'est la femme qui travaille beaucoup dans la partie Est. Et ça, personne ne peut m'en abuser parce que c'est elle qui nous cherche à manger, c'est elle qui fait le petit commerce, c'est elle qui fait le champ. Vraiment rendre autonome cette femme, l'autonomisation économique de la femme. Accompagner la femme à lutter contre les VBG, mais c'est pas seulement la femme, mais c'est aussi toute la communauté. C'est parce que la femme est victime. Mais aussi participer aux actions humanitaires, sociales et développementales de notre milieu.
Travaillez-vous en collaboration avec certaines organisations?
Nous travaillons en collaboration avec des agences des Nations Unies. Nous travaillons en collaboration avec les organisations humanitaires et comprenez que même ce qui a été le but de notre activité du dimanche dernier où nous avons formé nos membres sur la pertinence de nos participations dans les réunions humanitaires et même la planification de nos activités et aussi le monitoring et reportage. Et je ne manquerai pas vous rappeler que nous avons reçu Madame Anne Katungu qui est la pointe focale Beni de la CAFCO, c'est une grande organisation nationale congolaise qui en fait est cadre permanent des femmes congolaises pour nous accompagner dans ce sens parce qu'elle nous arrive avec des conseils et donc comprenez que c'est un partenaire de taille que la COTAVEC Beni et même cette coordination que je gère à partir du Grand Nord peut solliciter pour nous accompagner dans le cadre d'appui et même de la visibilité de nos actions.
Et à la fin, quelles sont vos attentes?
Nos attentes, c'est que cette population qui s'est déjà adhérée à cette approche puisse comprendre qu'il y a eu un moment donné des charlatans qui ont voulu détourner les attentions des gens, nous ne devons pas suivre ça. Nous devons vraiment nous focaliser à la formation nous donnée par notre coordination nationale. Nous devons respecter la hiérarchie qui nous a été mise à place par la coordination nationale et nous devons suivre les lignes directrices, celles qui nous demandent de nouer beaucoup plus des relations, des partenariats avec les humanitaires, avec les autorités étatiques, mais aussi avec les autres organisations et entreprises qui ont les mêmes vocations que ce que nous avons.
Jean-Paul Kapitula, je vous remercie.
C'est moi qui remercie la Radio Kapi.
Le coordonnateur du projet des associations villageoises d'épargne et de crédit dans le Grand Nord Kivu, Elitouri, répondait aux questions d'André Kitenge. C'est la fin de ce journal coordonné par Piero Elamenji, Mimi Kindou à la mise en onde et Belinda Bosuma devant ce micro. Merci de votre attention.